Donc, je m'entretiens aujourd'hui avec Steve Michaud, qui est directeur d'usine, bien sûr, ici à Rivière-du-Loup, l'usine FF Souci, ainsi qu'avec Sylvain Girard, qui est vice-président opération chez Papier White Birch. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté l'invitation.
Ça me fait plaisir.
Tout d'abord, M. Michaud, peut-être commencer avec vous. J'imagine que ça n'a pas été une journée facile d'annoncer plutôt aujourd'hui la fermeture définitive des installations de Rivière-du-Loup. Peut-être nous décrire justement cette journée-là. Comment vous l'avez vécu personnellement?
Effectivement, c'est pas nécessairement une journée facile. C'est une responsabilité et un devoir que j'ai d'accompagner les gens dans l'exercice. Fait que les rencontres servaient à informer les gens, donner leur juste sur le processus, puis pas les faire attendre là, inutilement.
Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait dans parce que bon, je sais que depuis juillet, on a multiplié les rencontres. On a eu l'occasion de se parler à quelques reprises, des rencontres qui ont eu lieu, études de faisabilité également qui a été faites. Où à partir de quel moment on a senti que ça allait être extrêmement difficile de sauver cette usine-là?
On a fait, effectivement, comme vous le mentionnez, on a pris le temps d'analyser toutes les options possibles. On l'a fait quand même de manière responsable parce qu'on voulait pas écarter une solution plus qu'une autre. Là, on voulait être certain d'avoir fait le tour de tout le jardin. Dans les derniers instants où l'étude de marché s'est amenée, ben, l'ampleur de l'investissement à faire pour être capable d'assurer une pérennité à Rivière-du-Loup était vraiment réellement assez importante. Puis ça limite la relance là, dans le temps au niveau de notre capacité à réaliser ce genre de projet-là actuellement.
La décision a été prise quand? Parce qu'on vous reproche un peu, vous étant l'entreprise, de confirmer ça un 23 décembre à quelques heures du réveillon de Noël. Mais est-ce que la décision s'est prise seulement hier? Tu sais, le moment venu où on s'est dit « OK, il faut l'annoncer maintenant aux employés », ça s'est pris quand, cette décision-là?
L'étude de marché est rentrée la semaine dernière là, au niveau des résultats finaux. On a espéré jusqu'à la fin du processus être en mesure de trouver une solution viable là, pour relancer les opérations de l'usine.
Ouais.
Actuellement, il n'y a rien qui nous amène à réorienter là, malgré les idées de transformation au redémarrage. Si on devait quand même une réponse aux employés avant la période des fêtes, parce que les gens s'attendaient à entendre parler de nous en décembre.
Il ouais.
Ne faut pas oublier que l'étude de marché qui s'échelonnait sur 3 à 4 mois, qui a débuté en septembre, on s'attendait à avoir des résultats au niveau du mois de décembre, au niveau des résultats. Puis maintenant, on doit le partager aux employés par respect pour eux le ouais. plus rapidement possible, qui est en mesure de tourner ce chapitre-là.
Je ne sais pas si vous qui êtes en mesure de répondre à cette question-là, vous parlez de l'étude de marché. Qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on aurait dû demander ou combien ça aurait coûté? Parce qu'en 2025, bientôt 2026, tout est une question d'argent, on va comprendre. Là. Mais qu'est-ce que ça aurait nécessité comme engagement ou comme investissement pour faire en sorte que cette usine-là soit pérenne dans les prochaines années, selon les résultats de l'étude de faisabilité, l'étude de marché?
Il y a des chiffres qui sont précis et qui sont quand même privés là, à l'organisation. C'est un travail conjoint avec le gouvernement du Québec également là, au niveau de l'étude. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est plusieurs centaines de milliers de dollars qui devraient être investis à Rivière-du-Loup pour sortir du marché du papier journal si on veut assurer une pérennité là, des installations dans la ville, la façon qu'on est installé présentement.
Moi, j'imagine vous parlez de milliers de dollars, c'est peut-être millions de dollars?
Dizaines de millions, oui. Vous corrigez bien ce que j'ai dit.
Je me place parce que j'ai lu toutes sortes de commentaires. Peut-être que vous en avez lu également. On parle que l'entreprise White Birch a peut-être été trop gourmand dans ses demandes salariales. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont ce genre de réflexion aujourd'hui?
Trop gourmand envers nos élus. Je pense que c'est un travail d'équipe. C'est un dossier qu'on a tenu avec eux là, depuis le début. Les discussions ont commencé au mois de mai avec le gouvernement provincial pour être en mesure de trouver des solutions. On est quand même dans des enjeux qui sont assez structurels, assez particuliers. On a une usine qui est très performante, qui est efficace, des employés qui sont exceptionnels, qui sont professionnels, qui ont permis d'aller chercher des efficacités d'opération incroyables au fil des dernières années. On est dans un marché qui est en distorsion, un marché qui est à inégalité actuellement.
Ouais.
On a des usines compétitrices qui sont subventionnées au niveau de nos opérations, qui sont directement dans nos marchés au niveau de l'exportation, ce qui en sorte que la viabilité court terme et moyen terme de l'entreprise est difficile à percevoir. Puis ça nous amène, ça nous empêche d'effectuer un redémarrage des opérations.
Monsieur Girard, pourquoi sacrifier Rivière-du-Loup? Est-ce qu'on sacrifie Rivière-du-Loup pour maintenir en opération les deux autres usines à Gatineau et à Québec, ou on n'avait tout simplement pas le choix de mettre la clé sous la porte de l'usine de Rivière-du-Loup pour X, Y raisons?
Quand on a fermé l'usine temporairement au mois de juillet, je ne cacherai pas qu'il y a une partie de la production qui a été transférée dans les autres usines pour respecter nos engagements. Parce qu'on avait des commandes fermes, puis il fallait respecter nos engagements. Cette usine-là était, je vous dirais, à 70 à 80 % à l'exportation, de par sa situation géographique et les facilités qu'on avait. Le marché en Inde en particulier est très difficile. La consommation de papier journal en Amérique du Nord a diminué drastiquement au cours des dernières années, ce qui fait que le marché à l'exportation est encombré. Si vous parlez tantôt de usines d'autres provinces subventionnées pour leur perte de production, ça rentre dans le même marché en Asie, capable de baisser les prix parce que c'est subventionné quand ils sont à perte. On n'était pas capable d'arriver avec ça. Ça fait qu'une fois la fermeture de l'usine de Rivière-du-Loup qui a été faite, oui, on a repris des commandes qui étaient temporaires, on a respecté nos engagements. Mais je vous dirais, ces tonnes-là qui étaient en Asie et déficitaires, c'est sûr qu'on les a pas récupérées, donc on s'est retiré. Pas mal de marchés, vous avez du marché asiatique. Puis la réduction structurelle du marché, en fait, vous direz, le reste pour les tonnes qui étaient produites par l'usine de Rivière-du-Loup. Fait que, pour répondre à votre question, la fermeture de l'usine de Rivière-du-Loup n'était pas pour transférer des tonnes, pour faire opérer les deux autres usines, définitivement.
Qu'est-ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui? Ce sont quand même tout près de 200 employés, un peu moins, là, qui perdent leur emploi. Est-ce que ces gens-là seront accompagnés? Qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là? Qu'est-ce qui va également arriver, parce qu'il ne faut pas les oublier, avec les retraités? Est-ce que les régimes de retraite seront respectés dans ce cas-ci?
Oui. Les employés, quand on a fermé l'usine, au mois de juillet, il y avait 190 employés. Plusieurs ont été mis au chômage. Présentement, il y a autour de 32 employés qui travaillent à l'usine pour chauffer l'usine, pour protéger l'actif. Les autres sont toujours en chômage. Certains ont trouvé un autre travail. La quantité exacte, on ne le sait pas. On sait que certains se sont trouvés un travail. Pour ceux qui travaillent dans l'usine présentement chauffée, la décision va appartenir au syndic, savoir s'ils continuent ou pas à chauffer. Ce sera leur décision. Je pense qu'ils ont quand même la volonté de protéger l'actif. Concernant le support aux employés, on va maintenir le programme d'aide aux employés White Birch pendant le temps qu'il faudra selon les besoins, support psychologique, différent. C'est un programme qui était déjà existant à l'usine depuis plusieurs années, fait qu'on va le maintenir.
Ouais.
Fait que c'est ce qu'on va faire. Pour le reste, je vous dirais, là, pour répondre aux questions, puis c'est à travers le syndic qui est en place là, que les gens vont avoir plus leur réponse.
Ouais. J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous pensez, puis ça c'est très hypothétique, mais est-ce que vous pensez que les installations de l'usine à Rivière-du-Loup pourraient éventuellement intéresser d'autres groupes? Bon, c'est peut-être pas à vous à répondre à cette question-là, mais tu sais, il y a des Kruger de ce monde, Résolu, Cascade, même un rachat peut-être de la famille Brand. Je ne sais pas si ça peut faire partie des possibilités, mais est-ce qu'il y a une lueur d'espoir qu'éventuellement cette usine-là trouve preneur et qu'on soit en mesure de faire quelque chose avec ça?
Je dirais, au cours des dernières années, j'étais directeur général de l'usine de 2015 à 2017. On avait regardé des projets pour niveau de l'atelier de pâte thermomécanique pour réduire les coûts d'énergie. On avait regardé des projets pour des produits à haute blancheur, mais c'était toujours coût de projet versus retour sur l'investissement versus marché. C'était plus ou moins intéressant. On a regardé aussi, dans les années qui ont suivi, mettre d'autres équipements pour faire du papier super calendré. On a regardé, il y a quelques années, Steve avait regardé pour faire du papier, de qualité de papier en feuilles. Ces différentes options qu'on a regardées. Là, on est arrivé au mois de juillet. On dit, OK, on va reprendre ça. On va tourner chacune des pierres. On va regarder le marché global, tout ce qui n'est pas du papier de communication. Parce que si on investit pour rester dans le papier de communication, c'est sûr que c'est un marché à décroissance. Fait qu'on a regardé toute la gamme de marchés, les types de produits qui pouvaient être produits avec une machine semblable à celle qu'on a, machine 1, machine 2. moyennant, c'est sûr, certains investissements majeurs. Mais quand tu regardes ça, quand tu regardes les marchés, le potentiel, les croissances, ou c'est des marchés en décroissance, là, après avoir tourné toutes les pierres, on n'a vu rien de viable, vous dirais, à moyen terme ou à long terme.
Ouais, donc si je lis entre les lignes.
La compétition pourrait dire, ouais. Écoute, nous autres, on a une bonne idée. Écoute, je peux rien écarter, mais honnêtement, après avoir tourné toutes les pierres, là, puis on a tourné plusieurs, on a pris le temps de bien faire des choses avec une firme spécialisée. On n'a rien vu. Ouais. Mais, écoute, je peux pas dire qu'il ne peut pas rien arriver, là.
Ouais.
Mais honnêtement, on a tourné quand même pas mal de pierres.
Il me reste deux questions, messieurs. On s'entend que cette usine-là est au cœur de Rivière-du-Loup. S'il y a une fermeture, il y a des gens qui craignent que ça soit laissé à l'abandon. Il y a eu des exemples ailleurs au Québec, ailleurs au Canada, de sites comme ça. Tu sais, c'est un site qui est contaminé, donc éventuellement, il y a peut-être une décontamination. Est-ce que dans les circonstances, on s'engage à faire en sorte que ce site-là soit maintenu avec une certaine forme de respect? Parce que c'est quand même en plein cœur, comme je l'ai mentionné, de la ville. Ça serait dommage que ça devienne une verrue pour une ville comme Rivière-du-Loup, parce qu'on s'entend que ça va coûter cher. Puis même si on devait terminer avec la vocation usine, on s'entend qu'avec l'ampleur du site, ça serait surprenant. Là. Il n'y aura pas un centre commercial qui va s'établir là-dessus. Là-dedans, on s'entend. Là. Mais est-ce qu'on s'engage à maintenir, là, encore là, je ne sais pas si c'est vous qui pouvez répondre à cette question-là, mais un certain niveau de propreté ou faire en sorte que ce site-là, justement, ne devienne pas une image sombre pour Rivière-du-Loup?
Effectivement, je ne suis pas la bonne personne pour vous dire, prendre un engagement par rapport à ça, là. Parce que là, c'est comme transféré à un syndic, donc la décision ne nous appartient plus.
Ouais.
Ceci étant dit, concernant la contamination, à ma mémoire, il n'y a pas de zone contaminée ou quoi que ce soit. Quand il y a un déversement d'huile, des trucs comme ça, on a l'obligation légale de nettoyer, ramasser. Fait honnêtement, je ne pense pas d'avoir des zones. À ma mémoire, il n'y a pas de zones qui sont contaminées ou qui causent vraiment de problèmes dans ce secteur industriel-là.
Oui.
Mais pour le futur là, de l'installation, l'actif, je ne pourrais pas vous répondre.
Dernière question, puis cette question s'adresse peut-être plus à M. Michaud. On a appris dans les derniers mois qu'il y a des fournisseurs également qui n'avaient pas été payés pour des travaux qui étaient faits à l'intérieur de l'usine. Est-ce que ces gens-là, malheureusement, vont devoir dire adieu à la possibilité de se faire payer ou encore là, ça retombe dans les mains du syndic? C'est quoi l'avenir pour ces fournisseurs-là?
C'est le même processus et ça va tomber dans les mains du syndic là, pour les prochaines étapes.
Ouais.
On va devoir les référer aux gens responsables là, pour la suite du processus.